L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'Odyssée géographique. Je suis ravi de vous retrouver après ces quelques 6 mois d'interruption. J'ai mis à profit cette période loin des ondes pour réfléchir aux nouveaux sujets que j'allais vous proposer et mettre en place des séries de chroniques. La première sera consacrée aux pionnières et aux aventurières. 4 portraits de femmes qui, entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle, ont marqué leur époque en dépassant les carcans moraux et culturels pour vivre leur vie comme elles l'entendaient. Vous découvrirez ainsi les parcours exceptionnels de Gertrude Bell, Alexandra Davinel, Nelly Bly et Ida Pfeiffer. Pour des raisons évidentes, je ne pourrai pas, dans l'immédiat, vous emmener à la découverte de territoires lointains. Je vous proposerai néanmoins quelques escapades hexagonales en Corrèze et dans le Tarn. Je vous rassure tout de suite, je ne ferai pas de chronique sur le coronavirus. À mon sens, le sujet a été suffisamment traité ces derniers mois. Pour cette chronique de rentrée radiophonique, nous allons prendre la destination du Liban. La dramatique explosion du stock de nitrate d'ammonium à Beyrouth a mis en lumière les graves défaillances du système politique libanais et le ras-le-bol généralisé de la population. Nous verrons que les difficultés que rencontre le Liban sur le plan politique trouvent leurs racines assez loin dans l'histoire du pays. Liban, un cèdre fragmenté, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Des Phéniciens au mandat de la SDN. À l'époque antique, le Liban a joué un rôle de pont entre la Mésopotamie, l'Égypte et le pourtour méditerranéen. Les Phéniciens s'installent dans cette région vers 1200 avant Jésus-Christ, notamment au niveau des villes côtières que sont Tripoli, Byblos ou encore Sidon. Ils sont connus pour être des commerçants avisés et des bons navigateurs. Différentes communautés religieuses se sont installées au Liban lors de la conquête arabe au 7e siècle. Les chrétiens maronites s'installent alors dans le nord du territoire et les druzes musulmans s'installent au sud. Le sud du territoire libanais, Beyrouth, Sidon et Tyr, appartient au royaume de Jérusalem jusqu'en 1291. Les Mamelouks égyptiens ont été les maîtres du Liban jusqu'au début du 16e siècle. En 1516, le Liban passe dans le giron de l'Empire ottoman et fait partie de la province syrienne. Les relations s'enveniment entre les Maronites et les Druzes au début du 19e siècle et un massacre de chrétiens entraîne une intervention française. En 1918, le Liban est occupé par les Alliés. La France reçoit un mandat pour le Liban en 1920 au moment de la conférence de San Remo. Une conférence de la paix pour la constitution d'un grand Liban débouche sur la création du Liban qui est confirmée par la Société des Nations en juillet 1922. Le Liban se trouve alors constitué de 5 départements, Beyrouth, Mont-Liban, Liban Nord, Beka et Liban Sud. Le Liban se dote d'une constitution en 1925. Dans les faits, le pays ne connaît pas une réelle indépendance car il reste sous l'influence française. Un traité de 1936 devait mettre fin au mandat français. Toutefois, le Parlement français refuse de le ratifier. Quelques années plus tard, l'indépendance de la Syrie et du Liban est proclamée par les représentants de la France libre. Le pacte national de 1943 régit la répartition des pouvoirs entre les différentes communautés religieuses. Les Maronites récupèrent la présidence de la République et le commandement de l'armée. Les Sunnites, la présidence du Conseil, et les Chiites, la présidence de la Chambre. Le Liban ne connaît une véritable indépendance qu'à partir de 1946. un État multiconfessionnel. Le principe du confessionnalisme est inscrit dans la constitution libanaise. Les chrétiens libanais représentent la partie la plus riche de la population et sont tournés vers l'Occident. Les musulmans libanais, eux, sont favorables à un engagement du Liban contre Israël. En 1967, la guerre des Six Jours renforce la division interne du pays. La défaite arabe va renforcer le mouvement de résistance palestinienne. Des commandos palestiniens s'installent dans le sud du Liban à partir de 1968. Ces commandos franchissent régulièrement la frontière entre le Liban et Israël, ce qui provoque des raids aériens israéliens sur les villages frontaliers. Dans les années 1970, la répartition démographique du Liban n'est plus conforme au recensement des années 1930 sur lequel a été fondé le pacte national. L'évolution est alors favorable à la partie musulmane de la population. Au niveau de la classe politique, la droite est chrétienne, pro-israélienne et pro-occidentale. La gauche, elle, est davantage musulmane. Dans les années 1970, les réfugiés palestiniens arrivent en nombre, ce qui provoque des affrontements entre les phalangistes et les fédéines palestiniens. C'est à ce moment-là qu'éclate la première guerre civile et que Beyrouth devient un véritable champ de bataille. Beyrouth, une ville qui n'a pas été épargnée par l'histoire. La ville de Beyrouth a connu un essor économique, démographique, urbain et portuaire à la fin du 19e siècle. En une trentaine d'années, la croissance démographique est impressionnante. 46 000 habitants en 1860, 70 000 en 1870 et 120 000 à la fin du 19e siècle. La construction d'une route entre Beyrouth et Damas relie les deux villes en une quinzaine d'heures au lieu de 4 jours précédemment. L'éclairage public au gaz est installé à la fin du 19e siècle. Les missionnaires créent des établissements d'enseignement qui existent toujours, comme l'Université Saint-Joseph, fondée par les Jésuites. Beyrouth est la capitale du Liban depuis le 22 novembre 1943, date de l'indépendance. L'expansion de Beyrouth s'achève au moment où éclate la guerre civile en 1975. La ville se retrouve coupée en deux par la ligne verte qui marque la séparation entre l'ouest musulman et l'est chrétien. Toutefois, des chrétiens continuent à vivre au sein de la partie musulmane de Beyrouth. Les obus tombent à longueur de journée et les tireurs embusqués deviennent la hantise des habitants. En 1978, le principal quartier chrétien de Beyrouth, Achrafieh, est bombardé par les troupes syriennes pendant 3 mois. Des dizaines de milliers de personnes perdent la vie dans le courant des premières années de la guerre civile. D'autres préfèrent la voie de l'exil et quittent le pays en venant renforcer le poids démographique et l'influence de la diaspora libanaise. Au début des années 1980, Israël s'inquiète de l'instabilité récurrente et des tensions en cours au Liban. Pour les autorités israéliennes, il importe de neutraliser la résistance palestinienne au Liban et de bouter les Syriens hors du Liban. Les Israéliens, de leur côté, cherchent à lancer une coopération entre l'Égypte, la Jordanie et le Liban. À cette époque, les États-Unis considèrent que la colonisation israélienne des territoires palestiniens est légale. En effet, Washington considère l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, comme une organisation terroriste. En juin 1982, Israël fait le choix d'envahir le Liban. Le 4 et 5 juin, l'aviation israélienne bombarde Beyrouth et le sud du Liban. Cette opération est baptisée « Opération Paix en Galilée ». Les combattants palestiniens et les dirigeants de l'OLP se replient vers Beyrouth Ouest et se retrouvent encerclés par les forces israéliennes. Derrière les discours justifiant l'aspect sécuritaire de cette opération, Israël laisse transparaître ses véritables intentions, qui sont de mettre en place un gouvernement qui défende ses intérêts. Au début du mois de juillet 1982, le blocus de Beyrouth commence. Il reste environ 500 000 personnes dans Beyrouth qui se retrouvent dans une situation dramatique, sans accès à un ravitaillement en produits de première nécessité et en carburant. La population a aussi un accès restreint à l'eau et à l'électricité. Suite à un accord chaperonné par les États-Unis entre le Liban, l'OLP et Beyrouth, des milliers de combattants palestiniens et de soldats syriens quittent Beyrouth dans le courant de l'été 1982. En octobre 1989, les députés libanais adoptent l'accord de Taif, dont le but est de mettre fin à la guerre civile. La reconstruction de Beyrouth débute dans les années 1990. Cette immense reconstruction se poursuit jusqu'au milieu des années 2000. Dans le courant des années 2000, Beyrouth retrouve son statut de centre culturel, intellectuel et économique qu'il avait perdu au moment de la guerre civile. Beyrouth est à nouveau meurtri à l'été 2020 par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium sur son port. Le Liban depuis le début des années 2000. En mai 2000, les troupes israéliennes se retirent du sud Liban après 22 ans d'occupation. Le 14 février 2005, l'ancien Premier ministre, Rafik Hariri, meurt dans un attentat à la voiture piégée. Cet attentat provoque une vague d'émotion et d'indignation au sein de la société libanaise qui pointe du doigt le régime de Damas. L'assassinat de Rafik Hariri cristallise les tensions entre les chiites et un bloc composé de sunnites, de chrétiens et des druzes. Cet événement va redessiner durablement le paysage politique libanais. Ainsi s'achève cette chronique inaugurant la saison 3 de l'Odyssée géographique. J'ai brossé un rapide portrait historique du Liban, même si je n'ai pas pu aborder de nombreux points permettant de bien appréhender la complexité de la situation libanaise. Je me suis volontairement arrêté au début des années 2000, car la situation géopolitique actuelle fera l'objet d'une prochaine chronique. Selon le journaliste Xavier Baron, après un siècle d'existence, le Liban n'a rien perdu de sa complexité historique, mais au cours de ces années souvent turbulentes, le pays a su résister à la désintégration où aurait pu l'entraîner l'infinie diversité du monde dans lequel il vit. Les Libanais ont montré qu'ils entendent continuer à coexister dans leur pays, avec leurs traditions et leurs contradictions, même si leur société est aujourd'hui fragmentée. Il est ainsi remarquable que ce pays soit le seul de la région qui n'ait pas connu de régime autoritaire, qui ait rejeté tout radicalisme religieux, qui n'ait jamais eu de visée sur ses voisins et qui pratique une tolérance multiconfessionnelle. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.